Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons le vendredi de 15h à 15h30 sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Philippe Motta. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Avec qui nous allons parler de son récent roman qui s'intitule Les yeux et publié aux éditions de l'atelier Inuit. On en parle dans quelques instants, mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Alors j'en ai quatre. Alors, tout d'abord, ce samedi 6 octobre, c'est-à-dire demain, à 10h, à la librairie La Femme Renard, qui est 115 Faubourg La Capelle à Montauban, anciennement la librairie Le Scribe, une rencontre avec Guy Motte, qui est auteur montalbanais, pour ses deux ouvrages « Bestiaire loufoque » et « Métier à sourire », donc deux ouvrages voilà, à Montauban pour demain matin. Ensuite, le café littéraire de Tournefeuille, qui aura lieu 1 bis boulevard Eugène Montel au rond-point de la Fontaine, ça c'est précis, hein, à Tournefeuille. C'est à la Briocherie, en plus le lieu est sympathique. C'est jeudi 11 octobre à 20h, une rencontre avec l'auteur espagnol Ignacio del Valle dans le cadre du festival Toulouse Polar du Sud et son livre « Empereur des ténèbres » dont les récits se situent dans les derniers jours du Troisième Reich. Ensuite, samedi 13 octobre, de 10h30 à 12h30, à la médiathèque José Cabanis, au petit auditorium 3e étage, eh bien vous aurez l'occasion de participer à l'atelier de lecture de poésie animé par Blandine Poney. Je vous rappelle que l'atelier est gratuit, mais qu'il est nécessaire de réserver, pour une question de place, au 05 62 27 45, 69. Et je termine donc avec ma quatrième petite info pour vous dire que eh bien, mon auteur, mon invité d'aujourd'hui, Philippe Motta, sera à la librairie Ombre Blanche samedi 20 octobre. Donc je vous le rappellerai également vendredi 19 lors de notre prochaine rencontre sur Radio Occitanie. Donc samedi 20 octobre à midi, il sera à la librairie Ombre Blanche pour justement présenter le roman dont on va parler tout de suite, qui s'intitule, je le rappelle, Les yeux, et il y aura une lecture aussi également.
Une lecture, présentation et dédicace si la faveur de certains invités.
Je ne me fais pas de soucis, bon, vous allez dédicacer Philippe.
C'est gentil.
Alors, Philippe Motta, vous êtes né et vous vivez à Toulouse.
Personne n'est parfait, oui.
Ah ben non, mais vous aimez le soleil, vous avez choisi la ville rose, c'est
j'ai
parfait.
J'ai choisi la ville rose parce que c'est le soleil, parce que c'est mes racines aussi, j'ai grandi. J'ai fait quelques escapades, mais me revoilà en fait.
Parce oui, que, vous êtes revenu toujours à la Ville Rose.
Ouais, tout le monde revient de là où il est en général.
Voilà.
On a besoin de ça.
À ses racines.
Oui.
Alors, vous avez fait des études de sciences politiques et puis de l'histoire de l'art.
Voilà.
Et puis vous êtes journaliste indépendant.
Exactement.
Vous avez travaillé donc dans à Libé, au Figaro,
au Journal Sud-Ouest et un peu partout, puisque j'étais indépendant. Donc je fournissais, entre guillemets, à qui me demandait. Avec des périodes évidemment, à une période qui était évidemment plus faste pour la presse écrite que maintenant.
Voilà. Et alors actuellement, vous écrivez pour la revue Crime et Châtiment.
C'est vrai.
C'est assez dostoïevskien, ça.
Le titre est dostoïevskien, mais l'expérience reprend un petit peu ce que la revue 21 a essayé de faire, à savoir donner aux journalistes la possibilité de s'étendre dans le temps, c'est-à-dire le temps de la page, ben, c'est l'espace,
oui.
pour raconter des histoires, mais des vraies histoires, c'est-à-dire avec une genèse en général, un événement proprement dit,
un fait divers,
et
peut-être
les
un
conséquences
divers,
ensuite.
Oui,
voilà. Crime et Châtiment, c'est le même modèle, enfin, le même principe éditorial que 21, mais appliqué aux faits divers.
D'accord, voilà. Bah d'ailleurs j'ai eu l'occasion de lire un de vos articles et j'ai beaucoup apprécié. Il y a de l'humour, on sent que voilà, vous avez de l'humour quand vous écrivez.
On a bien le temps de s'inquiéter, il n'y a rien d'inquiétant non plus, on peut prendre le parti de rire de tout,
oui.
Ou en tout cas d'en sourire pour le moins.
Quoi. Oui, tout à fait. Alors vous écrivez donc des articles, des documentaires, des romans, donc on va le voir. Donc un roman noir publié en 2008 chez Inuit, aux ateliers Inuit, comme celui-ci, qui s'intitule « Servir l'oubli ». Donc c'était plutôt un polar.
C'était un polar qui racontait au travers d'une ville fictive qui s'appelait Ville Rose.
Ah bah quand même, enfin Ville Rose, ça rappelait. Ah, enfin, on peut se douter que ça fait Toulouse.
Veut,
oui, voilà, tout à fait.
Et qui raconte les années 80, 90, comment les villes se sont petit à petit vendues aux sociétés privées pour se désengager de leur mission de service public, c'est-à-dire l'eau, les parkings, les ordures, certains chauffages, certaines concessions routières, etc.
Essentiel, hein, finalement, à la vie.
Hein. Essentiel et qui, de fait, devenait payante et pour certaines très chères. Parce qu'on conteste aujourd'hui encore, enfin, il y a des mouvements qui contestent le prix de l'eau, disant qu'il est surestimé au regard de sa vraie valeur.
Bon. Vaste débat.
Vaste débat. ce n'était pas le thème du roman. Le thème du roman, c'était comment les villes avaient résolu de se vendre plutôt que de continuer leur mission de service public.
D'accord. Voilà. Donc un polar, Servir l'oubli, et qui est disponible donc à l'atelier Inuit.
Et comment la presse a été responsable, co-responsable de tout ça en accompagnant ce mouvement plutôt qu'en alertant les citoyens. Quoi.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ensuite, il y a aussi eu un documentaire qui est paru chez Privat en 2009 qui s'intitule « Silence, on juge ».
Oui, avec un avocat, Georges Catala, qui a voulu...
Toulousain, un avocat toulousain.
Un avocat toulousain, oui, un grand avocat toulousain, Georges Catala, qui a une bonne quarantaine d'années, et peut-être j'en oublie, de carrière, et qui voulait poser sur le papier d'abord certaines de ses aventures dans les prétoires, mais aussi un point de vue sur la justice, sur la façon dont elle fonctionne et sur ce qui est demandé par les tribunaux, par exemple les expertises psychiatriques qui sont sujettes souvent à caution, qui ont fort heureusement évolué. Et au terme de 40 ans de carrière, il voulait quand même balayer un peu ces 4 décennies pour montrer comment les choses avaient évolué et comment on arrivait à des choses quand même plus fiables aujourd'hui, mais toujours incertaines.
Donc vous l'avez écrit avec lui en fait.
Voilà.
D'accord. Et puis une nouvelle aussi, Canard à la carte en 2007.
Oui. C'était une expérience plutôt drôle parce qu'en fait c'était une broche, c'était un livre qui a été édité chez Privé et qui a rassemblé une quinzaine d'auteurs. Il y avait Puy, il y avait Slocombe, il y avait je me rappelle plus encore. Enfin, il y a plusieurs.
C'est un peu un collectif
polar.
En fait. C'est chacun écrivait une nouvelle.
Une nouvelle sur les années Sarkozy. Comment on appréhendait, c'est bien le cas de le dire, comment on appréhendait les années Sarkozy.
D'accord.
Voilà. Moi j'avais choisi la presse. Comment j'imaginais que Sarkozy mettrait la presse à sa botte.
D'accord.
Je n'ai pas tapé très loin finalement.
Ah oui. Ça s'est révélé malheureusement.
Oui, ça date maintenant, c'est une faute de jeunesse, tout ça. Mmh. Mais bon.
Alors aujourd'hui, on va parler ensemble donc de ce nouveau roman publié également donc chez Inuit, aux ateliers Inuit, Les yeux. C'est un roman moi qui m'a beaucoup touchée de par l'histoire bien sûr dont on va parler ensemble, mais aussi de par le style. C'est la première fois que je lisais un livre écrit comme ça. Un style assez elliptique, dénué de ponctuation, assez style oral, enfin vraiment de l'oralité et du ressenti livré comme ça, cash.
C'est-à-dire que j'ai voulu faire parler quelqu'un qui ne sait pas parler.
Oui.
Et qui est traumatisé parce qu'il y a un événement dans sa vie qui survient
voir,
et qui le coupe finalement d'une évolution
monde,
un peu normale. Il est bloqué par une forte culpabilité qui l'empêche d'évoluer. Mais malgré tout, s'il n'arrive pas à parler... Ça ne veut pas dire qu'il n'arrive pas à s'exprimer, il suffit de l'écouter.
Oui, parce qu'on arrive à comprendre hein, ce qu'il dit.
C'est ce que j'ai voulu, qu'on retienne que ce garçon avait quelque chose à exprimer, même s'il le disait mal.
Tout à fait, ben c'est tout à fait ça. Et donc, c'est une histoire difficile, hein, qui nous parle forcément, hein, parce qu'on va le voir, un accident de voiture, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, hein, malheureusement. Et puis c'est une histoire aussi teintée d'amour, hein, bien sûr, l'amour de ce jeune garçon pour sa mère, on va le voir également, mais aussi teintée de sagesse africaine. Ça j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment teinté voilà de légendes, de contes, d'histoires, de sagesse, hein, parce que
oui, parce que j'ai choisi l'Afrique comme contrepoint, j'allais
dire. Rapport à sa nounou, si on peut dire, par
voilà,
rapport à Mariette,
hein, voilà,
la
nounou africaine qui lui raconte des légendes qui sont plus ou moins vraies, mais qu'importe une légende,
oui,
de
non,
toute façon.
Peu importe, oui, voilà, ça... on y croit, enfin voilà, l'important c'est d'y croire.
Voilà, une légende c'est une histoire, quoi qu'il arrive.
Tout à fait.
Et en revanche, c'est son côté C'est une histoire qui permet d'en s'ancrer dans la réalité par la métaphore, toujours une légende.
Oui, le petit chaperon rouge, c'est très imagé, très imagé et poétique.
Donc j'ai choisi l'Afrique, pourquoi ? Parce qu'il y avait cette immensité, et puis il fallait à ce garçon, qui est quand même un petit peu perché, il faut le dire, il fallait quand même un fil qui le ramène à la réalité, et le seul fil qu'il pouvait suivre, c'était le fil de son rêve. Et ça, nous le comprend très bien, elle comprend bien qu'il ne sera pas tout à fait comme tout le monde, en tout cas pas tout de suite. Et elle comprend que pour le ramener sur Terre, il faut le faire rêver.
Voilà, et elle lui raconte des histoires.
Voilà, c'est ça.
Les histoires des ancêtres, du vent, du feu, de tous ces éléments de la nature. Et puis
l'infiniment grand et l'infiniment petit.
Voilà, qui sont en osmose, finalement. Et puis, il y a beaucoup d'espérance aussi dans ce... Justement, grâce à ces histoires, certainement, il y a de l'espérance. Il a de l'espérance,
c'est gentil de le dire, parce que, comme on en parlait il y a quelques secondes... Je ne sais pas s'il y a de l'humour, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose de positif qui se dégage dans cette dramaturgie.
Tout à fait.
Et je vous remercie de l'avoir ressenti, parce qu'effectivement, dans ce drame qui est vécu, qui est quand même assez lourd, puisqu'il s'agit d'un enfant qui a quand même été très grièvement blessé et qui pense que sa mère est elle-même grièvement blessée par sa faute. Bon, on n'est pas dans quelque chose au départ de très joyeux.
Non.
Mais malgré tout, je voulais qu'il y ait de l'optimisme, quelque chose de positif qui émerge.
Oui, puis on va voir, il va évoluer à son rythme et à sa façon. Mmh. Alors, je crois que pour donner une idée à nos auditeurs, rien de mieux que de lire la quatrième de couverture, pour au moins déjà donner un petit point de départ, et puis après on va en parler plus. Alors, je cite... L'enfant ne parle sans doute pas avec des mots justes, mais il dit vrai. Et si sa langue ne peut expliquer, elle peut faire comprendre. Il y a eu un avant, puis un chaos terrible, une légende maintenant. Pour en sortir, il faudrait un pardon, mais les lèvres de l'autre, la mère, restent closes, peut-être pour toujours. Alors, grandissant inéluctablement, l'enfant construit des illusions véritables et met en forme l'indicible, un chemin long et blanc qui passe par l'hôpital. Les mots ne sont rien sans le regard. Dès lors, il arrive que l'on parvienne à entendre une voix au plus fort de ce qui trouble un monde en train de se bâtir dans un silence fracassant.
C'est résumé, c'est-à-dire c'est une expression un peu trop général. Bon, disons que l'idée est là quand même que ce livre, comme je pense notre vie bien souvent, est construite par les silences et pas tellement par ce qui est dit, mais aussi par la qualité de l'attitude que nous avons à porter les mots, à porter les choses.
C'est-à-dire
qu'on peut dire des mots qui pourraient être blessants dans une situation, mais si on sait les dire autrement, ils peuvent aussi être réconfortants. Et c'est une façon de... je pense que la matière compte beaucoup. C'est ce que les psychiatres appellent les dysphasiques. Les dysphasiques, ce sont des personnes... Je vous en parle savamment, mais pas du tout. On m'en a parlé à l'issue de ce livre. Mais ce sont des personnes qui ont du mal à parler, à s'exprimer.
D'accord.
Et qui, bien souvent, se gardent de parler. Et en revanche, ils ont du mal à écouter aussi, mais ils regardent les gens parler.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils suivent plus que les mots qu'ils ont du mal à associer entre eux. Ils regardent l'expression corporelle, si j'ose dire, de celui qui parle. Et ils décodent beaucoup de choses. Donc ils savent si le discours est bienveillant. Comme quoi, finalement, les mots n'ont pas toujours l'importance qu'on veut leur accorder dans la pratique ordinaire.
Tout à fait. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la phrase qui est en prélude du roman. Plus certain, justement, ça rejoint tout à fait ce que vous venez de dire, Philippe. Plus certain que les mots, nos regards ont de beaux dires.
C'est tout à fait ça. Et ceci dit, bon, je ne suis pas parti d'un cas psychiatrique particulier.
Non.
En revanche, j'ai eu la chance dans mon entourage d'une personne qui a pu lire ce livre et qui m'a dit ça ressemble à une dysphasique. Et finalement, comme quoi le hasard littéraire a fait
que ça
peut être cohérent avec quelque chose qui existe aussi. Quoi.
Alors, le titre, Les yeux, on découvrira à la lecture le choix de ce titre, et surtout à la fin également de ce roman. Alors, le style, comme je le disais tout à l'heure, un style oral dénué de ponctuation et assez elliptique. Et c'est une écriture qui se calque vraiment au mieux du ressenti du narrateur. Je trouve que c'est vraiment voilà, c'est vraiment très expressif et ça ne fait que renforcer l'émotion et la force qui se dégage de ce roman. Le fait d'avoir écrit comme ça.
C'est ce que j'ai voulu, c'est-à-dire que vous savez, quand on regarde ou on lit un article ou on regarde une émission à la télévision et il y a des gens qui vous disent « Ouh, ce jour-là, il y avait beaucoup d'émotions ». Mais je trouve que le fait d'utiliser le mot, ça tue justement le sentiment.
Oui.
Et que bien souvent, il est plus percutant d'user d'une métaphore en parlant des gens qui ont les yeux rouges, que tout le monde renifle, etc., etc. On va créer davantage d'émotions.
Oui, qu'en disant
le mot.
Voilà.
Parce que le mot, finalement, bon, il y avait de l'émotion, c'est très bien, et voilà. Et on arrive à galvauder des mots.
C'est vrai.
Par des usages un peu abusifs, en ce sens que il y a des mots en ce moment, c'est juste pas. Alors c'est juste pas ceci, c'est juste trop comme ça. Il y a des expressions comme ça qui galvaudent des termes à force d'être usés, réusités, et ça n'a plus aucun sens, quoi.
Justement, le fait de ce style, voilà, avec peu de ponctuation et très elliptique, ça ne fait que on est vraiment ému parce que les mots, on n'est pas ému par les mots parce que bon, même quand il dit que son père est mort, c'est pas ça qui nous émeut, c'est la façon dont il a de le vivre, de le ressentir et de le transmettre finalement.
Mais, oui, ce passage où il parle de son père est mort, il le constate en regardant que son vélo a pris la poussière.
Oui, parce qu'il se rappelle que son papa lui tenait la selle pour lui apprendre à faire du vélo.
Et puis un jour, il revoit son vélo et couvert de toile d'araignée.
Il se rend compte que son papa ne sera plus là, ne sera plus jamais là.
Voilà, c'est comme ça que j'ai plutôt voulu aller chercher l'émotion.
Bah oui,
plutôt qu'à dire, quand on m'a dit que papa est mort, j'ai tapé les pieds par terre, ça a été terrible, etc. Ça n'allait pas avec le personnage.
Tout à fait. Alors justement, l'histoire, on va un petit peu la résumer. Je la résume un peu à ma façon, enfin comme moi.
Je vous en prie.
Comme moi, je l'ai ressenti. Donc c'est voilà, un très grave accident de voiture qui laisse un petit garçon, donc le narrateur de ce livre, puisque c'est lui qui... Voilà, c'est un monologue, c'est son monologue, hein, c'est son histoire qu'il nous raconte. Donc, cet accident laisse son père mort et sa mère dans un état très critique. Alors, ce petit garçon, il va faire 106 jours de coma. Hein, donc, voilà, un très grave accident avec sa mère qui va venir lui parler durant son coma pour lui dire « Tu peux y arriver, tu vas y arriver ». Et ensuite, elle a une rechute dont il va se sentir responsable, il va se sentir coupable de cette rechute de sa maman, alors que lui est sorti du coma. Et ensuite, il a de la rééducation à faire, 4 ans de longue rééducation, parce qu'il lui faut tout réapprendre. Hein.
Il ne sait plus marcher. On devine qu'il ne sait plus marcher, puisque.
Il a un déambulateur.
Voilà, il parle d'un déambulateur, il parle aussi de ses béquilles, d'un corset.
Voilà,
il
a tout à.
Abîmé.
Tout à réapprendre. Et donc, il raconte aussi bien l'hôpital, hein, qui est devenu un peu sa famille, avec tous les gens qui s'occupent de lui et qui s'occupent de
c'est
ses
ça.
Progrès, hein, avec le docteur Jérôme Laurent, par exemple, le psy. Hein, voilà.
C'est vrai.
Et c'est un peu ça devient sa famille. Et puis il y a aussi bien sûr la Mariette, donc comme on le disait tout à l'heure, sa nounou africaine qui est là et qui lui raconte des histoires, et bien pour que justement il arrive à s'en sortir, pour
voilà,
arriver
qui est
à
un lien
la
avec
force.
La réalité, qui est un lien avec sa vie d'avant aussi, puisque Mariette a vécu avec ses parents.
Du temps où ils étaient
le père vivant et la mère en forme, si j'ose dire.
Oui.
Et c'est le lien qui le ramène vers cette maison.
À sa famille initiale, c'est le lien. Oh, y a Claire aussi, sa sœur. Également. Et puis, donc, il nous raconte aussi bien ses études, parce que, au bout de 4 ans de rééducation, il va réussir à retourner à l'école, à passer son bac, à l'avoir, à faire des études dans un IUT d'informatique, hein, parce qu'apparemment, il est doué en informatique.
Oui, comme souvent, les gens dysphasiques ou un peu autistes.
Ah oui, ils sont plus à l'aise avec les...
Bon, ça, c'est pas un hasard, c'est voulu. Quoi.
D'accord. Ouais. Et puis donc, il nous raconte finalement sa vie qui ne sera plus comme avant, mais avec toute l'espérance qu'il y met, qu'il veut y voir, à laquelle il croit. Et nous aussi, on y croit. Hein, quand on lit, on le croit aussi.
Ouais, c'est gentil, mais...
On est vraiment avec lui. Nous aussi, on croit que sa maman va aller mieux, parce que finalement, il n'y a que ses yeux qui trahissent la vie qui reste en elle.
Voilà, elle ne peut pas bouger.
Elle ne peut pas bouger, il n'y a que ses yeux.
Elle ne peut que cligner des yeux, on va dire. Et le gamin comprend que ses yeux, les yeux de sa mère essaient de lui parler. Mais bon, il se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et un jour, il entend à la radio qu'il y a un homme en France qui a réussi à parler, à écrire un livre en clignant des yeux.
Dominique Bobby.
C'est Dominique Bobby, c'est une allusion très claire.
Le scaphandre et le papillon.
Je précise que je n'ai pas lu le livre ni vu le film parce que je ne voulais pas me parasiter. Je portais déjà un peu ce roman, une idée autour de ça.
Oh, mais d'ailleurs, en plus, vous n'en parlez pas beaucoup. Hein. Je veux dire, c'est vraiment à la fin du livre.
Non, mais
puis
je voulais quand même
qu'il y ait
une allusion assez claire, quand même.
Oui. Bon. Ah ben moi, j'ai de suite pensé. Hein. Voilà.
Donc, je voulais pas.
Ça m'a fait de suite penser au livre de Dominique Bobby. Hein.
Et comme il a du mal à mettre en œuvre. Matériellement la situation, en revanche il a des stratégies pour persuader les autres de le faire parce qu'il sait que lui ne parviendra pas à faire parler sa mère. En revanche, il met en œuvre une stratégie pour que ce soit sa sœur qui s'y colle.
Mais d'ailleurs, cette phrase à la fin du livre, c'est là où le titre « Les yeux » prend tout son sens et puis justement parle de ce que vous venez de dire, Philippe. Il dit donc « Claire écrit avec les yeux de maman qui parle par lettres qu'on lui fait cligner quand elle est d'accord, lettre par lettre. »
C'est ça.
C'est tout à fait ça.
Et initialement, je voulais faire le roman, entre guillemets, de l'orthophoniste qui a fait parler Dominique Bobby. Initialement, je voulais faire ça. Mais après, j'ai dit, c'est pas possible, parce que d'abord, le fait de la retrouver, ça m'obligeait à me déplacer, à faire beaucoup de travail. Et
puis à lire peut-être le livre aussi.
Pardon.
À lire peut-être le livre aussi de Dominique Bobby.
Et voilà. Et puis ça me faisait le portrait d'une femme qui faisait
partie
de quelqu'un, donc j'ai préféré.
Oui, ben non, mais c'est très bien comme ça. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Alors, dans le roman, il y a aussi des phrases qui reviennent comme un refrain, comme une chanson. Il dit souvent seul, on n'est rien, hein, parce que son père le lui disait, parce que voilà, seul, on n'est rien.
Parce qu'il s'en rend compte aussi. Son père, qui était ingénieur, construisait des avions, je crois, dans le livre.
Oui.
Il explique que construire un avion, c'est un travail d'équipe. Lui, il se rend compte qu'il est sorti du coma parce qu'on l'a aidé.
Aller à l'hôpital, voilà, c'est un travail d'équipe aussi.
Il va falloir aider maman parce que seul, elle n'est rien. Quoi.
Puis il y a aussi toutes ces phrases, tout est vrai pour qui veut croire, tout est écrit pour qui sait voir, tout est dit pour qui sait voir. Ce sont des petites phrases qui reviennent souvent tout au long du roman.
Oui, parce que j'ai voulu faire une espèce, pas une incantation, c'est pas ça, mais j'ai plutôt voulu faire une musique. Quoi.
Ah tout à fait, c'est ça, comme un refrain.
Un texte qui soit porté aussi par sa musique, même si c'est parfois un bruit de casserole, puisque... Il n'est pas écrit de façon très orthodoxe, c'est pas écrit forcément en français toujours, mais je voulais que malgré tout, il y ait une musique derrière.
Eh bien, on le ressent tout à fait à la lecture,
merci,
Philippe.
C'est très gentil.
Puis il y a des phrases imagées et poétiques hein, également, comme par exemple celle-ci. Elle disait « tu peux », c'est quand sa maman lui parle quand il était dans le coma.
Oui.
Elle disait « tu peux », toujours avec ce parfum de main tiède, comme un nuage sur le front, sans impatience. Nuage sur le front, voilà, c'est imagé, c'est poétique. Et quand il parle de Mariette et sa voix du grand lac Kivumbo, où tremblent le vent et les ancêtres, la lumière et la perpétuité. C'est des choses qui m'ont touchée, qui me touchent.
Donc
les personnages sont attachants, hein. Bien sûr, Mariette, elle est même indispensable dans ce roman, et puis elle est attachante, et puis elle lui permet justement d'y croire,
de vouloir
y arriver.
Il fallait un ancrage réel aussi dans c'est ce personnage qui joue un peu cet ancrage réel. D'une vie qui n'est ni rêvée ni tragique, mais une vie qui continue parce que
on sent
qu'elle est très terre à terre, elle est très attachée, elle lui coud son dessus de lit, elle l'amène dans son studio, elle lui donne à manger.
Elle s'en occupe comme une maman,
mais
voilà.
Elle est toujours sur des réalités très matérielles
qui
font aussi notre vie.
Bah oui, tout
donc
à fait. Il y a aussi ses compagnons d'hôpital comme Coralie et Vova qui sont attachants aussi, je les ai bien aimés. Puis des clins d'œil, quoi, comme avec une petite phrase que j'ai bien aimée aussi, que j'ai relevée, des pays que les guerres n'avaient pas encore fait changer de nom.
C'est vrai,
c'est un petit clin d'œil comme ça en passant.
Ben oui, de la Haute Volta, qui se souvient de la Haute Volta?
Oui, c'est, oui, tout à
maintenant,
fait.
C'est le Burkina vrai. Faso, je crois, si je ne me trompe pas.
Oui, ça change effectivement voilà, tellement. En tout cas, c'est un très beau roman, vraiment, que je conseille à nos auditeurs, avec l'amour donc, de ce petit garçon pour sa mère, sa volonté de vraiment de s'en sortir, sa volonté de résilience, hein, finalement, et puis tout ce courage qu'il porte en lui et qui est aidé, ce courage, par les histoires donc, de Mariette, les histoires et légendes africaines, qui sont un peu comme une musique tout au long de ce livre et qui nous porte à nous aussi parce qu'on ne sort pas indifférent de ce livre.
C'est très vraiment. Gentil en tout cas.
En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé et puis j'espère que dans vos projets, vous en aurez un autre, d'autres livres.
Oui, il y a quelque chose en préparation.
Ah,
bien sûr.
Bon, alors vous viendrez m'en reparler à page
avec,
à page.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Je vous remercie de votre accueil.
Merci beaucoup à vous, Philippe Motta, pour Les Yeux aux ateliers Inuit. Et on se retrouvera le 19 octobre avec Mouloud Akouche pour Si à 50 ans, t'as pas ta Rolex, également publié aux éditions Inuit.
C'est vrai, c'est vrai.
Adiciats.